le livre dont je vais vous parler un peu est sorti l'année dernière, donc c'est quand même relativement actuel. En fait, il correspond à une recherche que j'ai menée entre, pour l'essentiel, entre 1999 et 2003, ce qui nous rajeunit déjà moins, qui était la version aménagée, qui le livre est la version aménagée d'une habilitation à diriger les recherches, dont effectivement l'idée m'était venue de façon totalement anecdotique. Mais des fois ça a du sens, en cherchant des une couverture pour les travaux précédents que j'avais faits sur les finances de François Ier, auxquels Vincent a fait référence tout à l'heure, et je m'étais aperçu que quand il s'agissait de mettre des couvertures d'ouvrages historiques, on faisait très très vite à peu près n'importe quoi, et avec la bénédiction des éditeurs, et généralement peut-être parfois même l'encouragement des éditeurs, c'est cet aspect vraiment tout à fait ponctuel qui m'a d'abord attiré vers ce regard sur l'image. Et puis bien sûr, au-delà de ce lien anecdotique, il y a la question du rapport à l'argent qui se posait dans les travaux que j'avais faits à l'époque sur les finances, État et société, disons. Le rôle social idéologique de l'argent ne se limite évidemment pas aux finances royales, et c'est lui qui a été au centre de ma réflexion. L'argent, facile, un fait social total, reprend une formule que Marcel Mauss a employée à propos d'autres réalités sociales. Disons que c'est vraiment quelque chose qui se présente comme une sorte de norme de base, un peu dans la société dans laquelle vivent les gens de l'époque. Et il faut apprendre à vivre avec. Et c'est pas évident. Alors, c'était pas évident de vivre avec pour eux. Et pour moi, c'était pas évident de vivre avec ce sujet. Parce qu'en définitive, j'avais fait le choix, donc à la fin des années 90, de rompre complètement avec le type d'histoire, au sens démarche concrète de recherche que j'avais suivi dans la décennie précédente. Ça voulait dire un autre domaine, ça voulait dire d'autres méthodes d'analyse, ça voulait dire d'autres sources, ça voulait dire une autre historiographie, et ça avait un côté, de mon point de vue, un petit peu expérimental. Je persiste à penser que c'était une tentative qui valait le coup. Alors, je vais essayer de vous présenter les choses en trois temps. D'abord, dans un premier temps, les éléments sur le domaine que j'ai retenu et puis la démarche que j'ai suivie. Ensuite, dans un deuxième temps, essayer de vous montrer sur des images plus précises un peu comment j'ai procédé. Qu'est-ce que ça donne sur des images ou sur des dossiers. Et puis, dans un troisième temps, en fonction de la vitesse de mon débit et de votre capacité à résister, quelques conclusions, quelques pistes de conclusion. Donc, premièrement, domaine et démarche. Et qui dit domaine dit représentation de l'argent dans l'image. Représentation argent-image, ça nécessite dans mon présentation quelques mises au point là-dessus. Représentation. Alors, qui dit représentation dit l'éternelle question du rapport au réel. Et le dernier livre que j'ai lu sur un thème un peu parallèle est un livre d'une historienne d'art qui s'appelle Valérie Boudier, B-O-U-D-I-E-R, et qui a publié un livre qui s'appelle « La cuisine du peintre ». Hein, qui est un livre sur les scènes de genre et sur la nourriture au XVIe siècle. Vous voyez aussi un rapport entre une thématique sociale, disons pour faire très 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 large, et puis l'image. Bon. Et voilà ce qu'elle écrit. C'est pratiquement sa dernière phrase de conclusion. « Peindre l'aliment est une pratique critique de la peinture, plaçant celle-ci au centre d'un questionnement où la représentation, dans son principe mimétique, se trouve remise en cause. » Alors j'approuve tout à fait la formule de Valérie Boudier, sauf que je crois que c'est vrai pour toutes les thématiques. Remplacer aliment par argent, ça donne ceci. Peindre l'argent est une pratique critique de la peinture, plaçant celle-ci au centre d'un questionnement où la représentation dans son principe mimétique se trouve remise en cause. Et je pense effectivement que le question de la représentation mimétique, c'est-à-dire le fait de savoir quel est le rapport au réel, est posée quel que soit le sujet. Et puis, j'ajouterais en plus à la suite de sa réflexion que cette remise en cause, si j'ose dire, du principe mimétique, elle a des enjeux esthétiques, mais fondamentalement, et c'est peut-être plutôt pour ça qu'elle m'intéressait moi, elle nourrit une lutte d'imposition sur comment on doit décrire le réel, quelles sont les valeurs de la société concernée. C'est par ce biais indirect, si j'ose dire, que la question du conflit ou des affrontements arriverait là-dedans. Quand on dessine ou qu'on peint, on a un projet qui n'est pas celui de la transcription du réel, qui est celui de dire quelque chose, y compris sur le réel de la société qui est concernée. Pour l'image, j'ai fait le choix de donner la priorité dans mon travail à la peinture. D'abord, c'était pour le restreindre, si j'ose dire, par rapport à l'océan de la gravure et du dessin en particulier. D'autant que j'avais la volonté de tenir à la fois une géographie relativement large, et assez floue d'ailleurs, et une chronologie, alors là, elle est assez large, disons, au milieu du XVe siècle, au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'intérêt de la peinture, c'est que l'accessibilité documentaire est plus élevée par rapport à d'autres supports. Et puis, alors ça, c'est un peu de la cuisine, et puis j'avais envie aussi de traiter de grandes images emblématiques, alors de l'époque moderne, emblématiques de l'art pictural. J'avais envie de traiter de Rembrandt, Rubens, Latour, pour prendre des peintres auxquels j'ai été confronté, et de les traiter comme des sources historiques, au même titre que cette image qui est une fresque dans une petite église rurale de Loisans. Je voulais traiter Rembrandt aussi, en parallèle avec ça, arracher ces grandes œuvres à leur statut d'œuvre d'art, tout en intégrant le fait qu'elles ont été conçues et puis analysées, justement comme des œuvres d'art, depuis des siècles, et pratiquement, pour une bonne partie d'entre elles, depuis leur production. Autre intérêt de la peinture, c'est la diversité thématique. Alors là, pas par rapport à la gravure, il y en a encore plus, c'est encore plus divers du côté de la gravure, mais par rapport aux autres types de supports, je pense à la tapisserie, je pense au vitrail, par exemple. Et sur ce plan, il y a des écarts très nets dans les représentations avec la gravure. Alors, on sait bien ce que c'est, on travaille sur la peinture, mais quand on voit une gravure avec de l'argent, on se dit, je vais quand même la regarder, je vais quand même l'archiver, la mettre dans mes dossiers, etc. Donc j'en avais à peu près 400 là, qui m'ont servi, mais alors qui ont vraiment servi uniquement de contrepoint thématique. Il n'y a jamais eu d'études systématiques. Elles étaient en complément ou en contrepoint de mon analyse sur la peinture, mais pas étudiées pour elles-mêmes, si j'ose dire. Alors ce choix de la peinture pose aussi celui de la diversité sociale, si j'ose dire, des types de représentations et la diversité sociale des types de peinture. Cette fresque rurale relève de ce qu'on appelle maintenant à peu près classiquement l'art paroissial, c'est-à-dire l'art de ce qui est peint, y compris dans les paroisses rurales, urbaines bien sûr, mais en particulier dans les paroisses rurales. Il est présent dans ma recherche, mais dans des proportions sans doute trop limitées. C'était pas trop grave de mon point de vue, parce que de ce que j'ai pu comparer entre cet art paroissial et un art plus élitaire, je percevais, au moins pour mon thème, une relative homogénéité socioculturelle du rapport à l'argent, puisque c'était mon sujet. Cet art paroissial, on peut dire aussi, on peut s'abriter en disant, de toute façon, c'est toujours les élites. Hein, c'est les élites de la paroisse, comme c'est les élites de Versailles. Seulement, il y a quand même des petites dénivellations socioculturelles entre les élites d'une paroisse alpine et puis les élites de la cour de France ou de la cour d'Angleterre. Ceci dit, cette homogénéité culturelle reste un trait d'ensemble, même si, par pur esprit de contradiction, j'ai choisi un tout petit moment, et d'ailleurs sur ce dossier-là tout à l'heure, de vous présenter un écart entre ces types de représentations sur la question de l'avarice. La représentation, l'image, l'argent. Alors c'est quoi l'argent en peinture? Le critère que j'ai retenu, c'est celui de la présence iconique, de la présence sur l'image de monnaie métallique. Alors c'est restrictif, d'abord dans le fait qu'il y a d'autres instruments monétaires à l'époque moderne, d'autres façons d'utiliser l'argent, mais j'ai fait le constat que j'ai cherché par exemple pas mal de temps sur les natures mortes ou sur les portraits des lettres de change, par exemple, qui est une chose assez courante dans les fonctionnements du temps. Et j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce type de représentation. Il y a toute une partie de l'image qui a des objets écrits, qui représentent de l'écrit. Hein, et je pourrais y faire allusion à certains moments peut-être. Ben, ça, les lettres de change, il y en a pas. Il y a quelques exceptions possibles peut-être à ce primat de la monnaie métallique. Je l'évoque juste pour mémoire. Il y a une poignée de tableaux, je pense, hein, en particulier, on a des livres de compte sans présence monétaire, où on a le sentiment que... Mais normalement, quand il y a des livres de compte, il y a aussi des pièces de monnaie, pour bien que le lien soit fait entre les deux. Mais il y a quelques exceptions. Bon. C'est restrictif sur les instruments monétaires, c'est restrictif aussi parce que, mon Dieu, l'argent, la présence de l'argent, sous une forme indirecte, on pourrait la retrouver partout. L'argent sert d'étalon universel ou quasi universel. On a une scène de marché... Même si on ne voit pas de monnaie, si on ne voit pas des monnaies circuler, on peut dire que cette scène de marché renvoie l'argent parce qu'il y a des échanges monétaires implicites dans les opérations qui sont conduites. Le problème ici, c'est qu'on débouche sur une aporie complète. Tout est monétaire, tout est argent, tout renvoie l'argent. Le roi avec son armée, il la paye. Donc s'il la paye, s'il y a une scène de roi avec une armée, c'est l'argent. Et moi, j'ai choisi d'essayer de m'en sortir de cette aporie par le critère visuel, qui était précisément cette présence monétaire en image. J'allais dire, pour pousser un peu les choses, je préférais presque le risque tautologique, hein, ça parle d'argent quand on montre de l'argent, comme point de départ, plutôt que l'aporie complète, où tout est en argent, à la limite, je prenais toutes les images, et là, je faisais plus... Enfin, ça devenait difficile de faire quelque chose. Avec toujours cette idée de vouloir tailler très large sur le plan chronologique et sur le plan spatial. Donc, l'hypothèse de travail, c'était que la présence de la monnaie métallique renvoie prioritairement au rapport à l'argent, à ce que ces images peuvent exprimer du rapport à l'argent, que cette monnaie métallique, elle a un poids idéologique extrêmement fort, et que ce détail pictural, si j'ose dire, bah, il a une fonction métonymique, si j'ose dire, c'est la partie pour le tout. La monnaie de l'époque moderne n'existe pas que par la monnaie métallique, mais que la présence de cette monnaie métallique dans l'image sert d'indicateur ou de relais pour elle. Alors, cette présence, est-ce qu'elle est significative? Ce qui m'a frappé sur les différents thèmes que j'ai pu évoquer, c'est qu'il y a une très très grande autonomie dans la représentation. Il y a deux thèmes seulement, où quand ils sont représentés, pour les occurrences que j'ai vues, je n'ai pas vu toutes les images, mais j'en ai vu beaucoup quand même, il y a deux thèmes où il y a toujours de l'argent. C'est la trahison de Judas. Alors, soit c'est des pièces de monnaie, soit c'est la bourse qui passe de main en main, etc. Et le repentir de Judas. C'est une scène un peu moins connue quand Judas vient à la fin de sa vie, il dit, je crois que j'ai fait une grosse connerie, vraiment. Hein. Et donc il jette au sol les 30 deniers devant le Sanhédrin, devant les grands prêtres, et là il y a toujours de l'argent. Pour les restes, il n'y a aucune thématique dans laquelle la présence de l'argent soit systématique. C'est un aspect aléatoire, donc on peut se demander effectivement s'il y a une signification idéologique effective au fait d'en avoir ou pas sur une image quand on a telle ou telle thématique. Moi je fais l'hypothèse, au moins au point de départ, que cette signification existe. Je vais vous donner juste un exemple. Je vous donne juste cet exemple, je ne le choisis pas au hasard, évidemment, parce que là j'ai une information précise. Une scène du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, qui s'appelle la mort d'Ananie et Saphir. Ananie et Saphir, c'est deux membres de la première communauté chrétienne, et puis on a décidé de mettre tous les biens en commun, et puis Ananie et Saphir, ils en gardent une partie pour eux, et ça ne plaît pas aux apôtres en général, et donc quand ils se présentent pour le partage, ils tombent morts, hein, ils meurent hein, de la vengeance du ciel, parce qu'ils n'ont pas voulu tout partager, et il y a toujours des richesses autour d'eux, et il y a toujours de l'argent. Il y a autre chose, mais il y a toujours de la morgue, de la monnaie, sauf un cas où il y a uniquement de l'orfèvrerie. C'est uniquement des objets d'orfèvrerie. On se dit, tiens, c'est un tableau d'Aubin Vouet qui date des années 1630. Et par chance, ici, la réponse me paraît assez simple. C'est une commande de la confrérie des orfèvres parisiens pour le mai, c'est-à-dire le tableau qu'ils offrent au 1er mai, que les confréries parisiennes offrent au 1er mai dans la cathédrale de Notre-Dame en l'honneur de la Vierge. Et donc là, il y a une explication, si j'ose dire. Mais bien souvent, j'ai pas d'explication. Il y en a sans doute une, mais je ne l'ai pas. Et que cette présence ou que cette absence soit signifiante, j'essaierai de vous le montrer là concrètement sur certains dossiers, mais il n'est pas toujours possible de connaître la signification. J'ai un corpus, par exemple, de diseuses de Bonaventure peint par le même peintre, ou du moins le même atelier, un certain Jan Kossiers, qui n'est pas spécialement connu. C'est la même scène. Il y en a trois où la diseuse d'aventure tient la main du client, mais il n'y a pas de pièce de monnaie dessus. Il y en a deux où il y a une pièce de monnaie, et j'avoue que j'ai bien du mal à déterminer pourquoi elle est présente dans un cas ou pas dans l'autre. Alors je m'en tire facilement sur ce dossier-là, parce que en même temps, sur toutes les images, on lui pique sa bourse, donc de toute façon l'argent est toujours présent hein, sur cette iconographie. Mais vous voyez que dans certains détails on a du mal, et il y a une grande énigme sur cette thématique-là, c'est les tricheurs de Caravage, qui est un tableau comme extrêmement célèbre, et qui est le père de toute une sous-genre, véritablement, où l'argent prolifère sur les scènes de jeu et de triche, et sur la matrice de ce genre, le premier du genre, les tricheurs de Caravage, qui est à Fort Worth, au Texas, il n'y a pas d'argent. Les interprétations qui sont données soit vont tirer du côté du choix esthétique, c'est-à-dire que Caravage a voulu se concentrer sur les personnages et éliminer au maximum les détails de la scène. Bon. L'autre explication, c'est plutôt une allégorie du jeu qu'une partie qui se joue vraiment, parce qu'en fait, il y a non seulement les cartes avec lesquelles il joue, mais des dés et des damiers, donc c'est pas véritablement... Il n'essaie même pas de peindre une partie, il peint le jeu, si j'ose dire. Bon. Mais ceci dit, j'avoue que j'ai pas de réponse complètement satisfaisante à cette absence. J'ajouterais qu'il faut souligner, j'allais dire, le caractère arbitraire de la définition du corpus. J'entends le caractère arbitraire par rapport aux sociétés qui l'ont porté. Personne n'a jamais regardé ou réuni ensemble ces images comme moi je l'ai fait à l'époque actuelle, et il faut le savoir, c'est pas une catégorie qui vient de la société du temps. C'est moi qui l'ai construite, qui ai rassemblé empiriquement un certain nombre d'images ça fait une masse critique relativement importante au bout d'un moment. J'avais à peu près 1350 images peintures avec argent, plus un certain nombre de corpus complémentaires autour. Bon, ça faisait un corpus de plus de 2000 images, mais disons que vraiment le corpus de base, c'est 1350. La présence de l'argent dans l'image est importante, je vais essayer de vous le montrer, mais ça ne veut pas dire que l'argent est présent souvent dans la peinture. C'est même extrêmement réduit. En gros, dans la peinture, c'est 1,5 à 2% des images où on trouve de l'argent, à peu près. Alors, si on calcule sur des corpus plus restreints, on peut trouver évidemment des pourcentages beaucoup plus spectaculaires. Je le cite, j'ai eu plaisir à le citer à Caen, puisque c'est dans le catalogue du musée de Caen, issu d'une exposition sur les vanités, que j'ai explosé mon chiffre pour atteindre 13% des 114 images dans lesquelles il y avait de l'argent, mais c'est hors norme. Dans le même temps, une exposition à peu près à la fin des années 70 sur la peinture en Provence, 219 images, pas une présence de l'argent. Donc vraiment, ça reste quelque chose d'important dans les effets que ça provoque sur l'image, mais absolument pas de fréquent dans l'iconographie. C'est une remarque qu'il faut faire. Alors, sur la méthode que j'ai suivie, toujours dans cette première partie, j'ai essayé de ne pas faire de tri dans les occurrences qui apparaissaient au fur et à mesure de mes dépouillements. On peut dire que c'est ou de l'ambition globalisante ou de l'honnêteté intellectuelle, peu importe. J'ai essayé de tout prendre, ce qui n'était pas prévu au départ, et d'avoir une démarche synthétique et d'essayer effectivement de construire une logique thématique de cette iconographie. Et dans les parties 2 à 4 de mon livre, j'essaie de dresser un panorama de ces usages sociaux, ces usages idéologiques de la monnaie, en essayant de les problématiser, de les interpréter autant que possible, pour revenir sur cet exemple auquel j'ai déjà fait allusion, des représentations de l'avarice. Alors, ici, représentation de l'avarice, on est à la même époque, autour de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, justement, une des thématiques où il y a des écarts, une des rares thématiques où j'ai perçu des écarts entre le monde de l'art paroissial et puis le monde d'un art plus élitaire. Alors c'est une scène qu'on appelle de cavalcade des vices, vous voyez trois des vices ici, des péchés capitaux si vous voulez, qui se tiennent, qui sont tenus par une chaîne autour du cou, qui sont précipités en enfer. Le personnage du milieu tient une bourse dans sa main gauche, ils s'en vont là vers la droite, et dans ces cavalcades des vices de l'art paroissial, il y en a toute une série, l'incarnation de l'avarice c'est toujours un membre masculin des élites urbaines, fermier, collecteur, marchand, on n'en sait rien, mais c'est toujours cette image-là qui apparaît. L'indétermination sur sa fonction précise n'étant pas un problème, c'est les élites urbaines liées à l'argent qui sont ici mises en image. En revanche, quand on passe dans d'autres cercles à la même époque, d'autres types de représentations, ça c'est un tableau de Dürer, d'Albrecht Dürer, du tout début du XVIe siècle, ici on a une désocialisation complète de la représentation de ce vice ou de ce péché capital qu'est l'avarice, et on dénonce plus les riches, si j'ose dire, les gens qui détiennent de la richesse monétaire, on dénonce un désir désordonné de possession. Donc il y a ce double mouvement, c'est plus la détention d'argent, la simple détention d'argent qui est problématique, c'est un désir de possession désordonné et qui donc décale ou déplace les enjeux sociaux de ce type de représentation. Alors, le fait d'avoir essayé de tout prendre, là encore, ça a une conséquence sur mon rapport à la bibliographie, sur mon rapport aux sources, mais sur mon rapport à la bibliographie. J'ai essayé plutôt de mettre tout ce que je pouvais rassembler, tout ce que je pouvais maîtriser au service de mon projet, toutes les lectures directes que j'ai pu faire dans le cadre des années de recherche, et puis les acquis antérieurs que je pouvais avoir, et non pas de faire ce qui est plutôt la démarche qu'on fait quand on fait une thèse, c'est-à-dire d'essayer de faire le tour intellectuel d'un objet de recherche. Je pense que c'est là aussi que la démarche n'était pas la même, et c'était un choix. Bon, même pour une thèse, il y a beaucoup de choses à lire, ça on le sait bien. Mais là, pour mon sujet qui partait dans tous les sens, c'était un véritable déluge de publications, y compris sur certaines œuvres. Sur certaines œuvres, j'aurais quasiment pas dû passer 6 mois pour lire tout ce qui était écrit dessus, avec en particulier un problème auquel j'étais confronté, et je trouve qu'il est encore plus grave chez les historiens d'art que chez les historiens, c'est l'empilement des interprétations. Chez les historiens, j'ai quand même le sentiment parfois que des interprétations sont remplacées par d'autres, et je dis bien remplacées. Je ne dis pas que les précédentes étaient complètement fausses, mais qu'il y a une forme de, je vais dire, employer ce gros mot, mais une forme de progrès de la réflexion. Chez les historiens d'art, bien souvent, les interprétations s'accumulent. Et donc, on est confronté quand on voit de l'extérieur le dossier précis, a une certaine déstabilisation. Et là, je vais m'abriter derrière un grand pour l'exprimer mieux que je pourrais le faire. C'est Max Weber, le sociologue, qui met ceci. J'ai mis sa phrase en fin de l'introduction de mon livre pour déminer un peu le terrain. Je cite Max Weber. Lorsque, concernant la façon d'utiliser et d'évaluer les sources de type monumental, documentaire ou littéraire, on est contraint de chercher ces informations dans une littérature spécialisée, qui est elle-même fréquemment controversée et sur la valeur de laquelle on est incapable de porter soi-même un jugement, on a tous les motifs d'avoir une opinion très modeste, c'est Max Weber qui parle, sur la valeur de sa propre contribution. Non, c'est ça aussi le problème auquel j'étais confronté et qui pas le même type de problème que celui d'une thèse. Généralement, on est dans un rapport à la documentation, bien sûr, mais même à bibliographie, différent. Concrètement, dans le travail, j'ai essayé de jouer sur des échelles suivant les thèmes et suivant les chapitres, soit de faire des traitements numériques globaux sur mon corpus, mettre en évidence, ce qui n'était pas évident pour moi au départ, que l'événement avec argent le plus présent dans la peinture, c'est l'adoration d'images. Et de très très loin. L'image où il y a le plus, qui l'a plus, c'est 15% de mon corpus, elle toute seule. Donc l'adoration d'images, c'est vraiment de très loin celui qui est en tête. J'ai mis en évidence aussi des choses dont je ne me suis pas d'ailleurs forcément servi, qui font que selon les espaces, la présence au sein du corpus est extrêmement différente. La peinture germanique, avec argent, ce que j'en repère, c'est avant 1550, les trois quarts. La peinture française, avec argent, c'est 70% dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc vous voyez des contrastes selon les espaces, extrêmement marqué, en prenant là une comptabilité, si j'ose dire, avec, d'ailleurs on pourra l'évoquer, toutes les limites et tous les problèmes qu'elle peut poser. Donc, vision globale, des traitements du corpus de façon thématique, j'ai un chapitre sur la charité par exemple, vous avez vu ce que ça peut donner sur l'avarice, on peut inclure par exemple l'adoration des mages dans un chapitre sur la charité. L'adoration des mages, une des formes de la représentation de l'adoration des mages, c'est la charité que des riches ont à des pauvres. Et j'y reviendrai tout à l'heure, des pauvres un petit peu spécifiques, je vous l'accorde, mais des pauvres quand même, et j'y reviendrai d'un mot un peu plus loin. Alors, j'essaie de tenir compte des contextes de production, mais c'est clair que dans cette démarche, je me suis affranchi d'une certaine forme ordinaire de prudence méthodologique. Il y a des rapprochements spatiaux, des rapprochements chronologiques, des rapprochements de genre aussi, ce qui fait hurler généralement l'historien d'art, qui sont faits de façon un petit peu brutale. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous venez de le voir avec l'avarice, entre une fresque de Cavalcade des Vises dans une église rurale, et puis une peinture qui représente une allégorie dans un contexte de production complètement différent, et que je rapproche, même si c'est pour les opposer. Alors, évidemment, le reproche qui m'a été fait à certains moments, c'est pourquoi t'as pas pris, ou vous n'avez pas pris, un corpus plus restreint. Ben, la réponse est une lapalissade. C'est précisément parce que je voulais traiter le problème de façon large. C'est évidemment une réponse un peu frustrante, mais j'aurais pu effectivement travailler sur la présentation de l'argent dans la peinture française entre 1610 et 1660. Ça aurait été un autre type de travail, mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors, dans certains cas particuliers, j'ai pu même me livrer à des études sur une œuvre précise. Hein. J'ai fait au moins une fois un article sur un tableau, parce que à lui tout seul, pour ma problématique, il était suffisamment riche. Alors, j'ai essayé dans ma démarche, toujours dans ces questions de première partie de méthode, de donner la priorité aux images. Et là, par rapport à nos collègues d'histoire de l'art, on a toujours une incompréhension encore persistante. Je dis pourquoi persistante, je pensais qu'ils avaient compris un peu par rapport à ça, mais non. Je cite toujours Valérie Boudier, qui a fait un travail très intéressant, celui que j'évoquais au tout début dans l'intro. Je le cite parce que, je vous dis, c'est le dernier de ce type-là que j'ai lu. Donc 2010, on peut pas dire que ça soit très ancien. Toujours dans son travail, je retrouve le titre « La cuisine du peintre ». Je la cite, page 22. L'historien, donc c'est nous, utilise les images comme des, entre guillemets, documents historiques pour illustrer un propos. En cela, notre approche d'historienne d'art est différente, puisque nous partons toujours des images pour élaborer notre réflexion. Ce qui sous-entend qu'un historien ne peut pas partir des images, évidemment, pour élaborer sa réflexion. Je pense, personnellement, qu'il y a plusieurs démarches possibles à partir des images, en partant des images. Celles des historiens d'art sont tout à fait louables, c'est pas la question, et moi je m'en suis nourri abondamment, mais qu'on en a peut-être plusieurs. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui faisait un peu la spécificité de mon propos, c'était que l'argent est généralement un tout petit détail iconique, ce qui a des effets dans la recherche, des effets concrets, il n'est pas facile à voir. C'est bête à dire, mais pour le repérage, ça demande un certain rapport à la documentation. Et puis, il a des effets aussi en termes de basculement de sens. Alors évidemment, le tableau, vous ne le voyez pas très très bien. Vous voyez, c'est une jeune femme de dos qui baisse un peu la tête avec une robe absolument magnifique. C'est un tableau de Ter Borch, donc un tableau néerlandais des années 1660. Et en face, debout, deux personnes, un monsieur de dos là, qui lève la main comme s'il lui faisait une petite injonction, puis une femme qui boit un tout petit peu plus loin. Et ce tableau était présenté au XVIIIe siècle sous le terme, dont j'ai jamais réussi à savoir si c'était parfaitement hypocrite ou si c'était illusoire, d'admonition paternelle. Donc c'est le père et sans doute la mère qui font un reproche ou une remarque à cette grande jeune fille. Sauf que dans la main de l'homme de droite, si vous la regardez bien, mais vous pouvez pas le voir, vous êtes obligé de me croire, hein, c'est les yeux de la foi, comme pour le miracle tout à l'heure, eh ben il a une pièce de monnaie. En fait, ce qu'il tend, c'est une toute petite pièce de monnaie qu'il a à la main. Et donc en fait, c'est une scène de bordel. C'est une scène de prostitution. C'est-à-dire qu'ils sont en train de négocier. La femme, au fond, c'est l'entremetteuse. Celle qui est de dos, c'est la prostituée. Et lui qui est là, c'est un militaire et c'est le client, vraisemblablement. Donc, de l'admonition paternelle, effectivement, on passe à scène de prostitution autour de ce tout petit détail. Bon, je vous accorde qu'il y a d'autres indices, je triche un tout petit peu, il y a quelques autres indices iconographiques qui pouvaient retenir l'attention, mais ça me paraît significatif. Beaucoup des études historiennes faites sur l'image traitent des thèmes qui sont rarement des détails de l'image. La femme, l'argent, la guerre, la ville, bon. Les historiens d'art se sont beaucoup intéressés aux détails dans l'image, de façon générique. Il y a un livre absolument, oui, je crois qu'on peut dire génial, enfin, au moins extrêmement passionnant, de Daniel Arras, sur le détail, hein, pour une histoire rapprochée de la peinture, que moi, qui m'a emballé, absolument. Mais travailler sur des tout petits détails, ici, c'était le choix que j'avais fait. Autre problème du rapport à l'image, c'est évidemment le rapport au texte. Je reprends un exemple canonique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, l'adoration des mages. L'adoration des mages, il y a un texte de référence, j'espère que vous le savez, vous connaissez tous par cœur les références. Mais vous le savez peut-être, c'est pas très détaillé ce qui se passe dans l'adoration des mages. Hein. Il y a deux versets, c'est bref. Alors bien sûr, à l'époque où moi je prends les images, au 15e, 16e siècle, tout cela est épaulé par des traditions écrites, des traditions orales, qui ont une traduction iconographique, avec des références qui vont bien au-delà de l'épisode proprement dit, si j'ose dire, de la citation évangélique proprement dite. On voit des choses sur l'image où on peut analyser des attitudes qui manifestent le respect devant Dieu. Est-ce qu'il y a des parallèles ou non à faire avec celui qui est dû au roi terrestre, hein, puisqu'en définitive, ce sont des rois terrestres qui manifestent des formes de respect que normalement on manifeste inversement au roi terrestre, hein. Bon, de façon globale, quand il faut mettre en scène, quand il faut peindre une adoration des mages, on est toujours obligé d'aller au-delà du texte. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est précisément comment, en allant au-delà des textes, eh bien, l'image, la peinture en particulier pour mon propos, permettait de montrer ce qui va sans dire, d'une certaine façon. Par exemple, des éléments sur l'anthropologie, si on parlait cuistre, hein, ou le corps des personnages, quels gestes de respect, comment est-ce qu'ils sont mis en scène. En étant toujours bien conscient que c'est pas la réalité qui est représentée. Ce sont des représentations, qu'il y a des codes de représentation, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on manipule, si j'ose dire, ce rapport au réel, mais il n'empêche que ça nous donne, me semble-t-il, des informations supplémentaires par rapport au texte, hein, sur le même type de scène. Et je le sais, parce que je l'ai vu d'une certaine façon, et là, mais on ne m'a pas attendu pour le dire, hein, une latitude réelle qui s'exprime dans ces images, soit elle vient des auteurs, soit elle vient des commanditaires, soit elle vient des deux, là c'est parfois difficile de savoir. Ici, vous voyez dans ce tableau, qui est un tableau portugais, celui-là, sa légende à côté, l'adoration des mages, premier quart du XVIe siècle, le petit Jésus tient directement une pièce d'or. Hein, il a la main au-dessus d'une coupe et il tient directement cette pièce d'or. Le sens du geste est compliqué, mais disons qu'il y a un rapprochement iconique possible et qui est très probablement fait par une partie des spectateurs. Quand Jésus tient quelque chose de rond comme ça avec une croix dessus au-dessus d'une coupe, ça doit renvoyer pour beaucoup de spectateurs à la question de l'Eucharistie, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Et d'ailleurs, c'est-à-dire l'indication strictement picturale qui me laisse à penser que ce rapprochement pouvait être fait, c'est que ce type d'iconographie disparaît complètement au milieu du XVIe siècle. Les exemples qu'on a, c'est fin XVe, milieu XVIe, des premières moitiés XVIe, et vous le savez quand même, je pense, dans la chrétienté de l'époque moderne, à partir du milieu du XVIe siècle, la question de la représentation de l'Eucharistie devient un tout petit peu plus compliquée et un tout petit peu plus sujette à débat encore qu'elle ne l'était avant. Et donc l'idée qu'il puisse y avoir une ambiguïté ici fait que cette représentation s'efface, et je pense, je vous en donnerai un autre exemple tout à l'heure, que ce n'est pas tout à fait un hasard. Donc, l'image déborde du texte, des textes, quand il y en a. Il y a des images qui n'ont pas forcément de support textuel, mais même quand il y en a, elle le déborde. Ce que je viens de dire sur ce rapprochement avec l'Eucharistie pose la question de la réception des images. Si on veut analyser la réception des images, on est généralement obligé de recourir à des textes, qu'il s'agisse de la réception des images, j'allais dire au sens étroit, tout ce qui concerne le marché de l'art. Hein, qui est-ce qui achète ces peintures, en général, ces peintures avec de l'argent là en particulier, ou plus largement, ce qui relève du rapport à l'argent, quelles réactions peuvent susciter ces images en ce domaine. Et attention, parce que moi, pour mon propos, c'est pas quelles réactions suscitent les images, c'est quelles réactions suscite la présence de l'argent dans ces images. Moi, j'étudie pas la totalité de ce qui est représenté, c'est véritablement ça qui compte pour moi. Et c'est fort intéressant. C'est fort intéressant, mais pour mon sujet, c'est pratiquement pas faisable. C'est pratiquement pas faisable, tout simplement parce que la documentation n'est pas là. Pour ce qui est du marché de l'art, alors là, dans certains cas, j'ai pu le faire un petit peu. On a des pistes, mais on en a pour une part réduite hein, des œuvres, y compris enfin des œuvres conservées. Et surtout pour le deuxième cas, c'est-à-dire quelle est la réaction de spectateurs de l'époque moderne entre 15e et 18e siècle par rapport à la présence de l'argent dans ces images. Généralement, on ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a une légende très célèbre qui circule largement dans l'Europe de cette époque, qui s'appelle la légende des 30 deniers. 30 deniers, ça vous fait peut-être penser à quelqu'un, c'est l'histoire de Judas et de du prix de sa trahison. Eh bien, il y a toute une légende qui dit les 30 deniers, en fait, c'est de l'argent qui circule dans l'histoire sainte depuis les plus hautes antiquités. C'est le même argent qu'a servi quand on a le patriarche Joseph la Genèse a été vendu. C'est passé par la reine de Saba, c'est passé par Salomon. C'est le même argent que les mages ont donné à Jésus. C'est le même argent que la famille de Jésus a donné au temple. C'est le même argent qui du temple est sorti du temple pour venir. C'est le même argent qui circule tout le temps. Qu'est-ce que les spectateurs pensent de ce rapprochement quand ils voient des images? Est-ce qu'ils se disent « Ah, c'est l'argent du patriarche Joseph, c'est l'argent qui va servir à... Oh, ironie, au scandale, c'est l'argent qui va servir à la condamnation, à la trahison du Christ ?» Rien. Pas de trace. Pas de témoignage. Donc, pour avancer sur le plan méthodologique, il m'a semblé que, tout en utilisant ce que je pouvais sur ces réceptions, c'est-à-dire c'est pas grand-chose, j'essayais, moi, de renverser la perspective et de prendre les images plutôt comme un point d'arrivée, voir ce qu'elle montre en tant que document historique, supposer que ce qu'elle montre en tant que document historique est significatif, prendre l'image comme un symptôme, alors là, l'image symptôme, c'est un terme, enfin une expression que j'emploie à Panofsky, mais que je m'approprie, moi, dans ma logique d'historien. Et donc, je vais l'étudier comme, si j'ose dire, on étudie d'autres types de sources, pour lesquelles la question de leur réception est évidemment intéressante, importante, mais ce n'est pas la seule facette de leur utilisation. Et en prenant cette image comme symptôme, j'essaie de la prendre comme symptôme d'un certain état des systèmes de valeurs par rapport à l'argent, d'un certain état des confrontations de valeurs par rapport à l'argent, voire même des affrontements ou des différences d'approche, comme par exemple pour l'avarice, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, ça nécessite un certain nombre de précautions méthodologiques que j'ai essayé d'appliquer dans mon propre travail. Essayer de placer les images dans leur contexte de production, dans leur contexte d'exposition, qui sont pas interchangeables, à chaque fois que c'est possible. Et moi, même, disons, c'est-à-dire, même quand j'avais pas de documentation extérieure sur certains tableaux, j'avais toujours au moins un contexte de production minimal qui était l'argent dans l'image. C'était le détail pris dans le tableau lui-même. Le tableau me servait au moins de contexte minimal. Et c'était pas des pièces de monnaie qui étaient là au hasard dans une représentation qui n'avait pas ni d'enjeu formel, ni d'enjeu historique, ni d'enjeu idéologique, ni d'enjeu sociaux, etc. Bon. Ensuite, ne pas interpréter ces symptômes ou ce qui pouvait paraître symptomatique comme forcément une espèce de message conscient des producteurs de l'image, que ce soit l'artiste, que ce soit le commanditaire ou que ce soit une articulation entre les deux. Ceci dit, mon idée était de voir comment cette signification se construisait dans l'image et avec l'idée qu'en peinture en particulier, c'est peut-être même plus net en peinture qu'en gravure, la représentation en peinture a un rôle extrêmement fortement prescriptif. C'est pas un reflet, j'ai déjà dit, c'est un élément de lutte d'imposition sur les valeurs légitimes. Je veux dire, à la fin, c'est ça qui m'intéressait le plus, même si j'ai pas été sans doute capable sur tous les dossiers de mener la démonstration jusqu'au bout. L'intérêt de l'argent, c'est que par rapport, par exemple, au poireau ou je ne sais pas quoi, moi, au caillou, c'est que il représente de façon globale des enjeux plus élevés, plus forts dans les sociétés du temps. Et de ce point de vue-là, j'essayais de faire intervenir, si j'ose dire, la dimension de réception. J'essayais de m'interroger ou de réfléchir sur la dimension de réception, sachant qu'il y a toujours des spectateurs. Et d'ailleurs, même à la limite, quand bien même il n'y en aurait jamais eu concrètement de spectateurs humains, dans cette société-là, on a toujours un spectateur. Il y a toujours Dieu qui est là, et qui regarde, qui voit, ou qui peut voir. Donc, l'idée selon laquelle c'est destiné à quelqu'un, si j'ose dire, ou à quelques-uns, voire à beaucoup de gens, est restée présente. Et vous voyez, je l'ai abordée non pas directement à travers la documentation sur les réceptions, parce que j'en avais pas, mais à travers les symptômes, ou du moins ce que j'interprétais comme tel dans l'image, autour de cette thématique de l'argent. Ce qui est frustrant, c'est que dans bon nombre de cas, la réponse que je peux donner, elle est surtout, pas exclusivement, mais surtout de l'ordre, bon, de la représentation bien sûr, de l'idéologie, disons, de façon large. La dimension sociale de l'analyse, elle est difficile à construire quand on travaille à partir de ce matériau-là comme symptôme, et non pas à partir d'une histoire sociale des réceptions qu'on pourrait appréhender directement. Ces réceptions effectives, effectivement, ces réceptions effectives restent donc, ce que je viens de dire, ignorées, mais je pense que leur message, le message de ces images, il reste relativement apte à être décrypté. Avec toujours, alors là, un autre problème méthodologique auquel j'étais confronté, j'essaie au maximum de procéder à ce décryptage à partir des images. Il y a une impossibilité structurelle à ne pas prendre en compte les connaissances de l'historien qui lui viennent d'autres aires, d'autres domaines, en particulier de textes, hein, sous quelque forme que ce soit. Il y avait un peu un risque, j'allais dire, que la démarche perde de sa pertinence, j'allais dire une sorte de danger que les textes chassés par la porte rentrent par la fenêtre, hein, c'est-à-dire reprennent la main sur la démonstration. J'ai pas de réponse théorique à cette question d'équilibre entre les deux domaines. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. J'allais dire, la réponse pratique que je peux essayer de donner, c'est voir, vous montrer sur un ou deux dossiers comment j'ai procédé concrètement. Cette méthode que j'ai suivie, je l'applique en utilisant deux dossiers qui sont directement dans la dernière partie, la cinquième partie de mon travail. C'est un travail totalement hérétique, vous voyez, en plus cinq parties, donc c'est contraire à tous les canons. Et dans cette cinquième partie, où il y a les analyses de synthèse, il y a aussi quelques dossiers plus précis que je traite, en essayant de vous montrer, à travers ça, comment l'argent, comment les enjeux de la présence de la monnaie, et à travers elle ceux du rapport à l'argent forcément, ont des effets iconiques exceptionnels. Alors, je vais commencer par un dossier simple qui est les représentations de portraits avec de l'argent. Alors, j'ai évoqué l'avarice tout à l'heure, on peut partir d'un constat, la représentation négative de l'homme d'argent est quelque chose qui domine très largement l'iconographie. On est ici, au début du XVIe siècle, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un thème très prégnant et très dominant. Mais dans cette représentation négative, c'est un ou des individus génériques qui sont évoqués, et non pas un portrait d'une personne donnée. Or, dans les années 1510-1550, dans un contexte d'essor général du portrait individuel, on voit apparaître des portraits avec des monnaies. C'est le cas ici sur ce tableau de Jan Gossart, qui est un peintre flamand assez intéressant. Je vais d'ailleurs l'utiliser deux fois aujourd'hui. Sur des tableaux de membres des élites urbaines laïques, dont je fais l'hypothèse qu'ils renvoient plutôt au monde marchand. Pourquoi ? C'est par la négative, si j'ose dire. Sur ces différents tableaux, quand on les voit d'un peu plus près, dans un peu meilleures conditions, il n'y a jamais d'indice clair d'un rapport soit avec le monde judiciaire, soit avec les finances publiques. Donc je fais l'hypothèse que c'est plutôt des gens qui sont dans les cercles marchands. Dans certains cas, on sait qui c'est. Dans d'autres cas, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. La présence de la monnaie, elle est toujours discrète. n'y a jamais de fortes sommes qui seraient étalées comme ça sur l'image, comme pour l'avarice, comme on peut en avoir pour l'avarice. Ici, vous les avez représentées, ces petites monnaies, ici, sous une balance. Et j'allais dire, c'est la quantité maximale qui est représentée. Il y a une vingtaine de pièces, et vraiment, généralement, il y en a moins que ça. Bon. Il est clair que l'argent, il est présent avant tout comme attribut d'une activité, pas sous forme de « j'en ai beaucoup ». Enfin, du moins, j'en possède forcément beaucoup. Et l'interprétation que je fais de cette apparition, de ces portraits avec argent, c'est qu'on a ici une claire tentative d'imposition, d'imposer l'argent comme une source légitime de la dignité sociale, au moins dans certaines catégories de la population. Ce serait un marqueur positif d'une activité professionnelle, un marqueur positif d'une réussite sociale individuelle. On produit une iconographie positive, et on assume, parce qu'on a le portrait qui est là, on assume l'iconographie positive d'un homme en train de gagner de l'argent, de travailler pour gagner de l'argent, éventuellement pour s'enrichir. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette tentative échoue. C'est-à-dire qu'au bout d'une génération, disons à partir de 1550, ce portrait avec argent disparaît. Il n'y en a plus, du tout. La mise en peinture de la réussite individuelle, qui continue, elle, évidemment, très au-delà de 1550, exclut désormais toute présence de la monnaie. Alors, il y avait des indices qui montraient que c'était fragile. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est qu'il n'y a jamais beaucoup d'argent sur l'image. Le deuxième indice, c'est que le corpus de cette tentative est relativement réduit. J'avais repéré une vingtaine de tableaux, il y en a sûrement d'autres, mais disons que par rapport à la quantité de production du genre de l'époque, ça reste déjà limité. Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication à cette disparition ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication en les prenant non pas depuis le contexte extérieur, mais depuis le fonctionnement de la peinture elle-même ? D'abord, il y a des évolutions qui tiennent au genre même du portrait, qui se diffusent socialement et qui se dévalorisent comme genre. Et donc, on a ici dans un phénomène un peu d'élévation, si j'ose dire, des critères de distinction. On élimine un objet, l'argent, qui reste malgré tout problématique. On ne prend pas de risque, si j'ose dire, en termes de représentation dans l'image. Deuxièmement, c'est parallèle aussi à une évolution de l'iconographie de l'avarice. Je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, qui est de plus en plus représentée, non pas comme lié à un groupe, un statut, une condition, mais de plus en plus représentée comme un trait individuel. Tout le monde peut en être victime. Donc, toute présence, toute mise en relation avec l'argent vous expose au danger de rapprochement, si j'ose dire, avec ce péché capital, ce vice au moins de l'avarice. Et comme dans le même temps, le portrait pictural cherche de plus en plus à prendre en compte l'identité psychologique du sujet, tout rapprochement entre argent et identité psychologique du sujet tire, si j'ose dire, la représentation du côté de cette avarice nouvelle méthode, nouvelle forme, si j'ose dire. Là, le blocage, il est complet. Il n'y aura qu'une solution. En termes de représentation de l'argent, pour avoir des portraits, pour se faire peinturer avec de l'argent, on a des exemples au XVIIe siècle, c'est dans les fonctions charitables. D'ailleurs, généralement, c'est de la peinture collective, il y a quelques cas d'individus, mais c'est dans les fonctions charitables. Alors là, il n'y a plus de problème, parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la collectivité, c'est un argent exercé dans le cadre d'une fonction toujours valorisée, qui est la fonction charitable, et là, c'est possible. Mais ici, dans l'activité professionnelle directe, ça disparaît complètement. Bon, là, c'est assez simple. Il y en a pas. Bon. Je voudrais mener, pour ça va être le plus long de la fin de mon propos, une analyse peut-être un tout petit peu plus élaborée sur les effets au sein même de l'image à travers un deuxième thème qui est la représentation de Danaé. Je vais faire un tout petit détour avant pour vous montrer mieux peut-être les enjeux de cette représentation de Danaé. La monnaie est un enjeu social très intense. Il y a une puissance de l'argent qui s'exprime dans bien des domaines, bien au-delà de l'image. Et l'image s'en fait l'écho. On est parfois directement à la manifestation. Sa présence est difficile à assumer, difficile à supporter. Il faut associer cet aspect, que je vais réutiliser, à un deuxième enjeu qui lui est lié, les capacités particulières, hors normes, d'une certaine façon, de la monnaie dans l'image. En tant qu'objet, elle ne fonctionne pas comme les autres objets dans l'image. Vous le savez, je pense, la peinture de l'époque que j'étudie, la peinture du XVe, XVIIe siècle, a une dimension symbolique, allégorique, considérable. Et en particulier pour ce qui concerne les objets figurés. toute une série d'attributs, toute une série d'allégories, une carafe transparente, c'est l'allégorie de la virginité de Marie, Cupidon, il a ses flèches, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de Cupidon, la flèche suffit pour envoyer l'amour, etc. Des systèmes de symbolique et d'allégorie extrêmement élaborés. Or, la monnaie ne rentre jamais comme objet dans ces systèmes. Elle se tient complètement à l'écart de ces systèmes. Elle ne renvoie qu'à elle-même, qu'à ses fonctions effectives, charité, expression de la richesse, achat, etc. Dans les natures mortes, par exemple, qui est un genre qui donne lieu à une débauche de représentation d'objets, par définition, et à une débauche d'interprétation symbolique, aujourd'hui, mais dès l'époque. Eh bien, dans les natures mortes, alors vous avez par exemple un langage allégorique des fleurs qui est d'une richesse et d'une complexité insensées. Et quand vous, il y a de l'argent dessus et que vous lisez les analyses, à quoi renvoie l'argent ? À l'argent. Enfin, je dis vite, mais à la richesse, éventuellement. Enfin, les interprétations s'arrêtent tout court, les anciennes comme les modernes, si j'ose dire. L'argent renvoie l'argent. Bon. Et deuxième dimension, peut-être, qui m'intéresse ici pour mon propos, pour ma démonstration sur Danaé, dans le même temps, sa représentation n'est jamais neutre, moralement. Dans les tableaux, quand on met en scène des usages de l'argent, c'est des usages bons ou des usages mauvais, mais il y a toujours une orientation morale. Sauf une exception, qui est le collectionneur, le numismate. Mais évidemment, bien sûr, là, ça pose plus de problème, puisque par définition, si je veux dire, dans le cas du collectionneur ou du numismate, l'argent, il est démonétisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de valeur. Hein. Ça vaut des sous, ne serait-ce que le métal qui est dedans. Mais l'argent est démonétisé, il perd son statut monétaire. Donc là, effectivement, on peut le représenter sans se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal de l'utiliser. Or, cette double affirmation que je viens de faire, pas de signification symbolique, pas de neutralité morale, paraît totalement démentie par la représentation du thème de Danaé. Le thème de Danaé, c'est quoi ? Danaé recevant la pluie d'or. Alors, je le rappelle, hein, un oracle apprend à un roi mythologique, un roi Chrysios, qui sera tué par son petit-fils. Donc, il n'a qu'une hâte, c'est de planquer sa fille pour que personne ne vienne l'approcher. Il installe sa fille unique dans le haut d'une tour, et puis Jupiter passe par là, et il la trouve très à son goût, et il la féconde sous la forme, dit la tradition, d'une pluie d'or. Et elle va donner naissance au héros Persée. Et manque de bol, évidemment, le héros Persée va tuer grand-papa. Par erreur, mais il le tue, accidentellement. Donc, ici, quand on voit ce récit rapide de ce thème, cette représentation de Danaé, elle paraît le contre-exemple parfait de ce que je viens de dire. La pluie d'or, elle est moralement neutre. Bien difficile à savoir si elle est bonne ou mauvaise, cette fécondation. Et surtout, elle est le symbole d'autre chose que de l'argent. C'est la puissance fécondante de Jupiter qui n'a plus rien à voir avec les usages monétaires. Or, en fait, quand on regarde d'un tout petit peu plus près les tableaux, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vais le voir en deux temps. Je vais partir d'abord des représentations de l'épisode qui datent du 15e siècle et du début du 16e siècle. Ce sont surtout des gravures, parce que pour le 15e, je n'avais pas de peinture, mais moi, je n'en ai pas repéré. Mais disons que l'aboutissement, c'est cette peinture-là. Alors, c'est le même peintre que le précédent, c'est toujours Jan Gossard, d'Imabus, c'est une Danaé de 1527, conservée à Munich. Eh bien, dans cette tradition picturale, la pluie d'or fécondante n'est jamais monétaire. C'est des gouttes d'or, c'est de la poussière d'or, c'est des rayons d'or, c'est tout ce que vous pouvez vouloir, sauf des pièces de monnaie. Comme ici, vous avez ces rayons d'or, cette poussière d'or qui tombe dans le giron de Danaé. Et c'est une époque où on fait encore le parallèle entre l'épisode de Danaé et celui de l'Annonciation. Il y a des théologiens qui disent « Puisque Jupiter a pu ainsi féconder une vierge, à plus forte raison, l'Esprit de Dieu a-t-il pu féconder Marie, etc. » Et donc, c'est un parallèle qui est fait régulièrement dans la littérature religieuse. Et d'ailleurs, le rapprochement est fait, si j'ose dire, indirectement par Gossard lui-même. Il a donné à sa Danaé une belle robe bleue, bleue mariale, si j'ose dire. Et, autre détail, le diadème qui est sur sa tête, il est repris dans un portrait de la Vierge. Donc, on voit bien qu'on est effectivement dans ce parallélisme. Et puis apparaissent les pièces de monnaie, de façon assez brutale, je ne vais pas entrer dans le détail, dans les années 1530-1550, Fontainebleau, Galerie François Ier, tableau de Titien, destiné à des gens aussi un peu importants que cardinaux qui va devenir pape, roi d'Espagne, etc. On est vraiment dans des sphères particulières, et là, ça pas sans signification, mais je laisse ça de côté. Et c'est un modèle donc qui va se diffuser très largement, et qui donne par exemple ce type de représentation, alors qui est plus tardive, hein, qui est un tableau de Jacques Blanchard, peintre français donc du XVIIe siècle, on est là dans les années 1630, Et là, alors là, il y a des monnaies. Vous les voyez dans la partie en haut à gauche qui tombent du ciel. Sauf que l'apparition des pièces de monnaie va bouleverser complètement la représentation traditionnelle. Comme c'est de l'argent qui tombe du ciel, les personnages qui sont sur l'image veulent en avoir. Et le personnage de gauche, c'est alors un personnage qui était déjà présent souvent sous la représentation de Danaé, c'est la servante, elle a une servante qui s'occupe d'elle. Eh bien, on voit ici la servante, là, c'est une vieille femme, hein, qui ouvre tout grand son giron pour récupérer l'argent. Et là, on est dans deux formes de rapport à l'argent qui peuvent se combiner, mais qui sont classiques. L'avidité de ceux qui le reçoivent, ou la libéralité de celui qui la donne. Ici, une libéralité divine qui fait écho à des libéralités princières. C'est assez classique, hein, les jets de monnaie à destination du peuple. Il y a même un tableau tout à fait révélateur, je ne l'ai pas reproduit ici, où c'est Cupidon qui enlève ses flèches du carquois, il vide le carquois des flèches, hein, il enlève l'amour pour mettre le pognon. Hein, donc là, ça devient véritablement là, une illustration directe de la puissance de l'argent. Alors, corruptrice ou non, ça dépend des représentations de Danaé, mais d'une puissance particulière, parce que la présence de la monnaie bouleverse en fait encore plus profondément que ça la représentation de la scène et pervertit complètement la thématique de départ. Si vous regardez bien le tableau de Blanchard, vous le verrez, l'argent tombe où ? Uniquement dans le tablier de la vieille. L'argent n'atteint plus Danaé, ne peut plus atteindre Danaé, il a féconde plus. Hein, le temps de Gossart où l'argent tombe dans le giron de la Vierge qui va être fécondée, est complètement transformée. La logique monétaire l'emporte avec deux facettes, deux possibilités concernant Danaé. Soit comme ici, on est du côté, alors peut-on dire de l'amour, disons du moins de l'accueil du dieu par Danaé, en tant qu'elle est la future mère d'un héros, et dans ces cas-là, elle est à part de l'argent. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est une représentation pudique. Il y a eu entre le milieu du début du XVIe siècle et la deuxième moitié du XVIe siècle, et on est dans cette tradition-là, une érotisation de l'image qui est nette ici, et sur laquelle je ne m'étends pas, mais qui est intéressante aussi. Donc, soit Danaé est à part de l'argent, soit elle est touchée par l'argent. Et alors là, la mise en image rapproche la scène de scène de prostitution, où en définitive, la vieille s'apparente à une entremetteuse, évidemment avec un paradoxe supplémentaire, parce que normalement, dans les relations sexuelles des prostituées, le but, ce n'est pas la fécondation. Ça, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Donc en fait, la présence de l'argent transforme complètement le rapport entre Danaé et Dieu, si j'ose dire, le dieu Jupiter. Et les effets sont tellement dévastateurs qu'ils interdisent désormais absolument tout rapprochement avec la Vierge Marie, qui est jugée alors absolument non pertinent, là encore, dans un contexte depuis le milieu du XVIe siècle où la dévotion mariale pose encore plus de problèmes dans le rapport avec les protestants, donc on en limite au maximum les ambiguïtés. On a un exemple tout à fait significatif au début du XVIIe siècle. Karel van Mander, qui est à la fois un homme de théâtre, un auteur de théâtre, un peintre, et celui qui a écrit un des ouvrages de référence sur l'histoire de la peinture des Pays-Bas. C'est le Vasari, si vous voulez, des Pays-Bas. Il écrit une pièce de théâtre, et dans une pièce de théâtre, il y a une scène où un paysan arrive chez un riche, et... il voit une Danaé et il prend ça pour une adoration. Rigolade générale. Mais quel crétin. Il n'a rien compris. Et précisément, là, maintenant, désormais, les deux sèmes sont complètement dissociés. Et j'ai trouvé, mais j'en avais pas de bonne reproduction, un tableau de la fin, autour de 1700, d'un Italien qui s'appelle Bellucci, qui a essayé de résoudre la contradiction de la façon suivante. Vous avez à gauche Danaé et les gouttes d'or qui tombent sur elle, et à droite, les pièces de monnaie qui sont récupérées par les poutis. Mais d'une certaine façon, alors, dans la récupération avec les poutis, d'ailleurs, ce n'est pas une représentation négative. Les attitudes des bénéficiaires que j'ai pu comparer avec d'autres types d'images, c'est celles qu'on retrouve sur des tableaux qui mettent en scène la charité, la libéralité. Donc, ce n'est pas forcément mauvais, si j'ose dire. Mais il n'empêche que le don d'argent est complètement coupé de l'épisode de la fécondation. Ce qui veut dire que la contradiction n'est pas résolue. C'est ou l'un ou l'autre, mais qu'on n'arrive pas à tenir les deux. Et donc, bilan des courses, si j'ose dire, même dans le cas de Danaé, s'il y a apparition de la monnaie, premièrement, il y a disparition de la neutralité morale, je veux dire, pour caricaturer ou la charité ou la prostitution, et ou la cupidité ou la générosité monétaire, comme vous voulez, et évidemment aussi, si la monnaie est présente, eh bien, elle n'arrive pas à renvoyer à autre chose qu'à elle-même, et ses rôles sociaux reprennent le dessus, que ce soit le paiement de la prostituée ou les comportements charitables, ils empêchent, d'une certaine façon, l'image de fonctionner sur les bases du mythe lui-même, c'est-à-dire la fécondation qui tombe du ciel, si j'ose dire. Quelques conclusions pour finir, mais je dois déjà être... Oui, je n'ai pas regardé combien de temps ça fait. 5 minutes. Bon, là, je vais être plus rapide. Donc, la question faussement naïve, c'est toujours dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça nous apprend de plus que les textes ? C'est une vraie question, et c'est une vraie interrogation qui n'est pas simple à résoudre. Hein. J'ai retrouvé une phrase qui m'amusait bien d'un gars qui parle de Michelet et qui dit « L'iconographie lui a pas révélé beaucoup de secrets qu'il n'aurait pu découvrir par la consultation de documents écrits. » Sous-entendu, ça ne servait à rien qu'il s'embête à regarder des images. Bon. Est-ce que le recours à l'image fait apparaître des aspects nouveaux ou est-ce qu'il confirme seulement ce qu'on savait déjà ? Par exemple, ici, pour le rapport à l'argent. Bon. Je crois que, précisément, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce que ça supposerait que étudier l'image, c'est étudier quelque chose qui est dans un domaine spécifique de la vie sociale, qui n'aurait pas de corrélation ou de correspondance avec le reste, et ce qu'on étudie par les textes, ce qui n'a pas de signification. Après, effectivement, pour ce qui est des apports spécifiques, j'ai essayé de vous donner quelques pistes, moi, sur ce que j'envisageais, c'est pas, effectivement, toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais j'aurais tendance à dire que, et je finirai là-dessus, c'est sur cette dimension-là que je finirai, l'image, l'argent, enfin la représentation picturale de l'argent, nous donne quelques voies par lesquelles cet argent qui est fortement négatif, et dont l'image a un héritage extrêmement négatif, et dont la société, si j'ose dire, sur laquelle la société tient encore très largement sur le plan éthique, moral, religieux, un discours très négatif, l'image offre des pistes pour vivre avec, ce que j'évoquais dans mon introduction. Quand vous voyez Jésus, c'est la première fois qu'on voit de l'argent dans l'histoire du Christ, hein, c'est cette adoration des mages, scène hyper présente, qu'il accepte, qu'il le reçoit, cet argent. C'est quand même intéressant, comme pour se dire, on peut accepter l'argent. Et alors, dans le cas de l'adoration des mages, c'est encore mieux, parce que il accepte les trésors des mages, et ça le rend même pas riche. Moi, ça, c'est un problème. Comment les gens du temps concilient ça ? Il reçoit des trésors, et après, dans l'épisode suivant, la circoncision, il y a aussi de la présence de l'argent. Joseph fait l'offrande des pauvres, hein, il donne 2-3 piécettes d'argent, et or, il vient de recevoir de l'argent. C'est super. Idéologiquement, ça manifeste une chose fondamentale, la charité, c'est pas fait pour enrichir les pauvres. Vous pouvez bien leur donner des trésors les plus extraordinaires, et vous faites bien, car vous faites votre salut, ce faisant. Mais l'important, c'est que l'ordre social... Enfin, et dans le même temps, l'ordre social est maintenu. La charité, les trésors des mages n'enrichissent pas la famille de Jésus. Il reste un fils de pauvre charpentier. Et comment les gens concilient les deux choses ? C'est pas forcément évident, puisque ils croient, hein, qu'il a reçu véritablement ces trésors. Bon. Deuxième exemple de ces formes d'acclimatation de l'argent, l'image offre toute une série de scènes, elle n'est pas la seule, où la conversion est toujours une issue offerte. Il n'y a pas besoin forcément de changer son comportement maintenant, il y a des issues. La représentation de la mort de l'avare vous montre bien que jusqu'au dernier moment, hein, on peut choisir entre le diable et le bon Dieu, entre l'ange et le démon. Et puis, de façon très ténue, moi je l'ai vu vraiment un tout petit peu à la fin de ma période, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on commence à voir apparaître une iconographie de l'argent sur des scènes qui traditionnellement étaient négatives et qu'ils sont moins ou pas. Et par exemple dans la représentation du jeu. La représentation du jeu avec argent est connotée, et par plein d'indices, très négativement, massivement, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et puis dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on commence à voir apparaître des tableaux où, en définitive, le jeu avec argent est une sorte de... Bon, j'allais dire, on peut peut-être faire mieux, mais de passe-temps honnête, de passe-temps paisible. C'est une passion douce, pour reprendre une catégorie, c'est Albert Hirschman qui doit employer ça. C'est une passion douce, et qui permet peut-être d'éviter des vices plus graves. On voit ici, si j'ose dire, un indice d'acclimatation, mais le plus... Alors, à la fois celui qui est le plus net et celui qui m'interroge le plus, et je finirai sur cette interrogation, parce que je crois que c'est pas inutile, comme Nicolas en évoquait tout à l'heure un certain nombre dans son propos, de finir sur une interrogation. Le plus spectaculaire en matière d'évolution de la représentation dans l'image, c'est la disparition de l'argent. Dès la fin du XVIe siècle, sur la peinture religieuse, et dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dans la peinture de scènes profanes, on a un effondrement, mais dans des proportions qui vont de 2/3 à la moitié, ou parfois plus, hein, après, voire complètement selon certains thèmes, un effondrement complet de la présence de l'argent. Je n'en déduis pas que l'argent occupe une moindre place dans la société de 1700 que dans celle de 1650. J'ai bien du mal à en déduire quelque chose. J'en déduirais presque que la disparition de cette représentation, qui porte encore massivement un discours critique, est un des biais qu'on a trouvé. Vaut mieux pas en parler. Enfin, vaut mieux pas en parler. Je rectifie. Vaut mieux pas le montrer. Ça simplifie le problème. Mais cet argument par le silence me convainc pas complètement. Alors, faudrait peut-être étudier plus les choses au XVIIIe siècle, où effectivement la peinture avec argent est très très réduite en quantité. C'est pas un phénomène de la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est quelque chose qui se prolonge dans le temps. Alors, on peut citer des tableaux, bien sûr, mais j'ai commencé à regarder un petit peu dans cette première moitié du XVIIe siècle. Il y a vraiment peu de choses. La gravure fonctionne différemment, j'en suis convaincu. Pour la peinture, ce grand silence, si j'ose dire, progressif qui s'établit, a une signification dont, j'avoue, je ne maîtrise pas complètement encore, je ne maîtriserai peut-être jamais, mais complètement encore les enjeux. Et voilà.